prochaine histoire.
Demoiselle, gente damoiseau, je vous salue bien bas, c'est le conteur Doé qui vient ici même vous conter la belle histoire du roi Arthur, puisque c'est une série que nous continuons avec aujourd'hui l'épisode incroyable, Lancelot, la douloureuse garde. Alors le monde était vaste, et devenir chevalier la plus noble de destinée. Celui que l'on nommait le beau trouvé possédait tous les talents. Il était généreux comme honnête, loyal comme courageux. Viviane, la terrible enchanteresse, l'avait recueilli quand il n'était qu'un nourrisson. Il était demeuré toute son enfance dans le château magique au fond du lac où vivait sa mère adoptive. Il avait appris avec ardeur ce qu'un gentilhomme doit connaître, comme on danse, comme on peint, comme on se bat. Une fois jeune homme, il se décida à parcourir le monde pour suivre trois buts. Se faire chevalier, découvrir son véritable nom et dédier sa lame à une dame pour laquelle il aurait le plus pur des amours. Viviane savait cette séparation nécessaire, l'enfant était promis à une destinée hors du commun. Pour autant, elle éprouva un immense chagrin à le voir partir. L'armure blanche du garçon resplendissait dans le soleil tandis qu'il s'éloignait. La sorcière se retira dans les sombres profondeurs du lac. Jamais plus il ne reviendrait. Après plusieurs jours de voyage où il ne trouva aucun exploit à accomplir, le damoiseau se désespérait. Il était impatient de prouver sa valeur et se lamentait quand il croisa un cavalier. Dans l'instant, il rêva d'un combat avec cet homme. « Étranger, quelle est ta loi ? » demanda-t-il en portant la main à son épée. « Tout doux, mon garçon. Je suis Gauvin et mon suzerain est le roi Arthur. Et toi, qui es-tu pour me défier ?»« On m'appelle le beau trouvé, car je ne connais pas mon nom véritable. Je désire devenir chevalier. » Je me rends à Camelot. Si tu es valeureux, tu pourras t'y faire adouber par Arthur en personne. Il n'y a pas de plus grand honneur. Faisons route ensemble et en chemin je t'apprendrai qu'on ne provoque pas un voyageur pour le simple plaisir de tirer sa lame au clair. Sois, mène-moi au roi. Il me plairait de le rencontrer, dit le jeune homme sans relever la remarque. Ainsi, messire Gauvin conduisit cet étrange garçon à l'armure blanche auprès d'Arthur. Le nouveau venu s'empressa d'exiger qu'il l'adoube, chacun s'en étonna. D'habitude, les damoiseaux baissent les yeux devant le monarque et n'osent lui adresser la parole s'il ne les y invite. On l'interrogea sur son identité et son lignage, mais il demeura muet. Son regard venait de se poser sur Guenièvre et cette vision accaparait toute son attention. « Ton nom ?» répéta Queux, qui se tenait auprès d'Arthur. « Vas-tu répondre ?»« Je n'ai jamais vu une femme si magnifique, s'extasia le jeune homme en ignorant qu'il parlait de la reine. » Tous cessent l'affaire, y compris le roi. Comment prendre ombrage d'un jouvenceau se pâmant devant la beauté de son épouse? Même Guenièvre ne put tenir un sourire. « Je ne peux adouber un inconnu, regretta Arthur. Je ne sais rien de toi. Tu dois prouver ton courage et ta force. J'accomplirai un exploit pour attester de ma valeur et le ferai en honneur de madame, ajouta-t-il dans une révérence. « Tu pourrais nous libérer de la douloureuse garde, ricana Queux. Soit, je pars aujourd'hui même. Sire Queux, se moque, intervint la reine. Ces chevaliers invincibles ont une forteresse reculée depuis des années. Comment pourrais-tu seul en venir à bout ? » En guise de réponse, le beau trouvé s'inclina avec respect et se retira. Il s'enquit auprès de Gauvin du lieu où s'élevait ce fameux château et malgré les mises en garde de son compagnon de voyage, reprit la route dans l'heure. Thank you. Le donjon de la douloureuse garde se dressait dans la contrée la plus sinistre du royaume. Par le passé, la région était prospère, mais aujourd'hui ne s'y épanouissait plus que la désolation. La forêt alentour se composait d'arbres chétifs et de buissons d'épines, des animaux faméliques s'y traînaient et tous les hommes avaient déserté l'endroit depuis longtemps. Toujours le vent y soufflait et des cris de désespoir jaillis d'on ne sait où se mêlaient au chant des bourrasques. En parvenant à un pont au-dessus d'une rivière asséchée, le beau trouvé s'étonna de rencontrer une jeune femme au doux visage. Une couronne de fleurs coiffait sa longue chevelure. Nul personnage n'aurait paru plus incongru dans un tel décor. « Je me nomme Saraïde, » dit la demoiselle. « J'attends le chevalier qui délivrera le château. Je ne suis pas encore chevalier, mais telle est ma mission. » Tu devras combattre la douloureuse garde pour leur prendre deux clés. L'une grande et l'autre minuscule. Elles te seront nécessaires pour descendre dans le souterrain de la forteresse et libérer la région des âmes damnées qui hurlent sans relâche leur angoisse. Sois brave. Le jeune homme franchit alors la rivière et s'avança vers l'entrée de la place forte. 10 gaillards vêtus d'armures sombres se tenaient alignés devant le pont-levis. Un à un, il dut les combattre. Un seul de ces guerriers était déjà un ennemi redoutable, mais il fallut les vaincre tous sans prendre de repos. Dès qu'il parvenait à en abattre un, le suivant l'attaquait aussitôt. Le dernier d'entre eux était le plus fort. Il portait autour du cou une large clé en fer. Quand il l'eut terrassé, le beau trouvé récupéra l'objet. Il était épuisé, mais sa quête n'était pas achevée. Il manquait la petite clé. Bien que cela le répugne, il fouilla les cadavres des 9 autres gardiens, mais ne découvrit pas ce qu'il cherchait. Alors il s'engagea dans la cour du château. Ce qu'il vit aurait désespéré les plus courageux. 10 nouveaux guerriers en armure sombre l'attendaient, mais surtout les plaintes portées par le vent résonnaient ici plus sinistrement encore, et un sentiment de tristesse pénétra son cœur. Un instant, il crut vouloir mourir. L'idée même de la joie et de la beauté se révélait impossible à imaginer dans ce lieu. Le souvenir de la reine Guenièvre, de son doux sourire et de son bienveillant regard lui donna malgré tout assez de volonté pour tirer une fois encore l'épée de son fourreau. Il dut combattre à 10 reprises, sans trêve et sans repos. À peine avait-il vaincu un des gardiens qu'un autre se présentait. Le dernier était le plus fort des 10 et le plus fort des 20. Il portait une minuscule clé scintillante en pendentif. La main du jeune homme ne faiblit pas. Il trouva assez de vigueur pour essuyer les plus puissants coups de son adversaire et assez de finesse dans sa lame pour se glisser sous la garde ennemie et pourfendre le géant qui tomba à genoux. Il décrocha la petite pièce d'or du cou du gardien et pénétra dans le donjon. Un large escalier de pierre s'enfonçait dans le sol et formait comme une immense gueule noire d'où s'élevait une multitude de cris douloureux. Cette terrible musique le frappa de manière insoutenable. Elle vous étreignait le cœur et dictait à votre raison de fuir à toutes jambes. Avec courage, le beau trouvé descendit les marches à la simple lueur d'une torche. Il déboucha dans une vaste salle voûtée où se dressait un puissant pilier central. En inspectant la colonne, il remarqua une haute serrure ménagée dans la maçonnerie. Il utilisa la grande clé pour l'ouvrir. Les cris désespérés redoublèrent d'intensité. L'image de sa propre épée s'enfonça dans sa gorge, s'imposa à son esprit. Les voix lui donnaient l'ordre de mettre fin à ses jours. Il hésita, il sentait que s'il restait un instant de plus en ce lieu, la folie s'emparerait de lui. Il ne savait quel mot redouter de plus, perdre la vie ou perdre la raison. La niche dévoilée par la grande clé dans le pilier abritait un coffret de bois. Il usa de la petite clé, la boîte ne contenait rien mais le couvercle soulevé, les cris cessèrent. Étourdi, épuisé, il gravit l'escalier pour rejoindre l'extérieur dans la cour. Les dépouilles de ses ennemis avaient disparu, le sol pavé et nu laissait à présent place à un jardin luxuriant. Saraïd se tenait en son centre, debout devant une tombe. « Tu es parvenu à libérer le pays de la malédiction. À partir de ce jour, cet endroit portera le nom de Château de la Joyeuse Garde. Dans de nombreuses années après que la mort t'aura pris, tu seras enterré ici. » À ces mots, la jeune fille s'écarta et il lut la mention inscrite sur la pierre tombale. Ici reposera Lancelot du Lac, fils du roi Bande Bénoïc. Plusieurs jours plus tard, Gauvin vit venir à lui un cheval fourbu. L'animal portait un cavalier inconscient. Il reconnut aussitôt le jeune homme. Son armure blanche rutilante, il y a encore peu, était à présent noircie et enfoncée à plusieurs endroits. Sur sa tempe, un filet de sang séché achevait de prouver que le pauvre avait survécu à un redoutable combat. Gauvain dirigea la monture jusqu'au palais d'Arthur où le blessé fut pris en charge. Quand le jeune homme reprit connaissance, sa joie fut grande de voir la reine à son chevet. Inquiète de l'état de santé du garçon, elle avait passé de longues heures à le veiller. Cette vision fut un remède bien plus efficace que toutes les médecines. Il se sentait déjà la force de libérer à nouveau le château de la douloureuse garde s'il l'avait fallu. « Je suis rassuré de constater que vous avez retrouvé des couleurs. Je ne sais toujours pas votre nom et pourtant on chante les exploits du beau trouvé à travers toute la Bretagne. » Je ne le connaissais pas moi-même jusqu'ici, je le révèle pour la première fois et je suis heureux que ce soit à vous et à nul autre. À partir d'aujourd'hui, je vous considère comme madame. Mon épée est à votre service et votre volonté sur moi ira avant même celle du roi. Je me nomme Lancelot. » Guenièvre porta ses deux mains blanches devant sa bouche dans un mouvement de stupeur. Elle prit sur elle pour conserver son calme et se composer un sourire. Après quelques vœux de prompt rétablissement, elle quitta le chevet du blessé en proie au plus grand trouble. Elle ne savait pas ce qui lui arrivait. Alors que le damoiseau, il était à ses yeux de femme, encore un enfant, lui avait confié son identité, il s'était produit une chose aussi terrifiante que merveilleuse. Bien qu'il fasse plein jour, le ciel s'était obscurci. Seul ce jeune homme resplendissait comme si tous les rayons du soleil se concentraient sur sa personne. La vision ne dura qu'une seconde, mais elle en connaissait la signification. Il ne pouvait être que son bel amour, celui dont on ne croise qu'une fois la route et qui vous aimera jusqu'à la mort. Pourtant, elle avait déjà connu une telle expérience des années plus tôt quand elle avait rencontré Arthur. Comment était-ce possible? On ne peut avoir de bel amour. Ce jour-là et pour longtemps, la peur de ses propres élans s'installa dans le cœur de la reine. Le blessé remis sur pied, Arthur en personne l'adouba et aussitôt un siège à son nom apparut à la table ronde. Son identité fut ainsi révélée à tous, Lancelot, fils de Ban. Chacun le félicita pour cette prestigieuse ascendance, car au début du règne d'Arthur, Ban de Benoïc s'était montré un de ses plus fidèles vassaux. Lancelot avait déjà accompli 3 de ses désirs. Il était adoubé, il était informé de ses origines et il avait trouvé une dame à servir. Il avait conscience que jamais elle ne serait sienne, son devoir envers son suzerain l'exigeait, mais il ne comprenait pas encore l'ampleur du supplice qui l'attendait. Dans son inexpérience, il ignorait que l'amour peut ronger votre âme plus sûrement que les cris angoissés du château de la douloureuse garde. Lancelot, la douloureuse garde, eh bien, je vous annonce une grande nouvelle, c'est que la semaine prochaine, eh bien, nous continuerons les aventures du roi Arthur et de tous les chevaliers de la table ronde. Allez, ciao, bye bye, c'était Doé qui vous racontait toujours, toujours, toujours et encore une histoire.